Bienvenue au Polysécur, épisode technique. Je suis accompagné de Sébastien.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Oui, cette fois-ci, on va continuer ce qu'on a commencé dans un précédent épisode, mais cette fois-ci, un peu moins aléatoire. J'étais un peu moins TDA que d'habitude. J'ai structuré différemment. Donc, on va essayer d'aborder des sujets de plus concentrés. Et justement, on va commencer avec les containers parce que c'est quand même le volet atomique d'un contexte Kubernetes sans... Dans le fond, Kubernetes utilise les containers, mais il faut quand même maîtriser les containers pour l'utiliser correctement avant d'aller avec du Kubernetes. Mais je vais te laisser commencer un peu à mettre les choses en contexte, l'expliquer correctement, puis justement d'arriver pour qu'on donne un vocabulaire puis qu'on puisse comprendre ce que c'est, comment le monter, puis dans le fond, comment c'est sécuritaire incidemment après.
Je pense qu'on en avait légèrement parlé un petit peu dans le premier podcast. Donc, un container, c'est une espèce d'OS, une version légère de l'OS qui est construit par couche. Donc, on prend une première base et puis on rajoute une deuxième couche où on fait des changements, puis une troisième couche où on fait des changements, ainsi de suite. Et dans laquelle, à un moment donné, on va mettre notre application et on va la packager dans ce fameux container qui est ensuite facile à distribuer et standardisé pour le démarrer et agnostique quasiment de l'OS sur lequel ça va rouler.
Oui, mais cet élément-là justement de containerisation puis qui est largement, j'imagine, de ce que j'entends, le thème est bâtardisé maintenant malheureusement. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut se préoccuper parce que c'est pas simple comme ça. Là, tu l'as expliqué très simplement, mais la réalité est un peu plus complexe que ça. Ce container-là doit justement être construit d'une certaine façon pour justement aborder de façon sécuritaire. Et d'autres éléments, on en a beaucoup parlé en pré-show, là, mais je vais te laisser au moins pour la construction du container justement pour qu'il soit justement plus sécuritaire.
Oui, alors la construction, c'est là la force de Docker quand ils sont arrivés avec leur système de build, Docker build. C'est que tu crées un fichier, un Dockerfile, dans lequel tu vas partir d'une image de base et tu vas rajouter des choses à cette image ou tu vas modifier. Donc, tu vas copier des fichiers ou exécuter des commandes à l'intérieur de cette image. Et à chaque fois que tu exécutes une commande ou que tu rajoutes un fichier, c'est un nouveau layer qui vient se rajouter par-dessus l'image de base. Donc, les images de base, les plus de base, ça va être un OS complet, ça va être une Debian, ça va être une Ubuntu. Ça fait 600, 800, 1 gig, et c'est l'équivalent de ce que tu as sur ton CD-ROM que tu avais sur ton CD-ROM quand tu voulais installer à l'époque. Donc, tu as un OS complet avec le package manager, avec le... Bref, tout. Évidemment, si tu fais ça, c'est l'équivalent d'une VM. Tous les vecteurs d'attaque que tu peux avoir sur un OS, tu vas les avoir à l'intérieur de ton container.
Déjà là, moi, je trouve déjà que de monter un plein OS dans un Docker ou dans un container défait un peu l'idée de base de volet très allégé de ce que ça peut être. Puis c'est justement comme tu le mentionnes, tant qu'à ça, on va se monter une VM. Puis tu sais, je veux dire, si on veut vraiment la pleine douleur de gestion d'un OS, ben on va faire ça. Là. Pour moi, c'est déjà là, je trouve déjà j'ai déjà une certaine difficulté à y comprendre pourquoi on irait jusqu'à monter un plein OS dans un container. Là.
Alors, tu ne monteras pas un plein OS parce qu'il n'y a que le process de ton application qui va être exécuté. Mais si un attaqueur arrive à rentrer dedans, lui, il aura accès à toutes les ressources qui peuvent exister à l'intérieur de l'image pour aller faire des choses méchantes. Donc, effectivement, ce n'est pas ça que tu veux. Et même si c'est pour faire du développement, en général, tu ne veux pas une image, une base image pleine parce que d'abord, elle est lourde, c'est 800, 1 gig ou... Tu n'as pas envie de ça et puis tu n'as pas besoin de tout ce qu'il y a dedans. Donc, il y a des images de base qui sont beaucoup plus légères. Alors, on peut parler de Alpine, qui est une espèce de mini OS qu'on pourrait dire quasiment complet avec un package manager, mais qui reste en taille très petit. On parle de peut-être 40 ou 50 MB de données de base de ton container plus ton application. Qui est un package manager. Donc, tu peux faire APK. Alors, c'est le nom du package manager. APK, add, et puis tu vas rajouter curl, tu vas rajouter des certificats SSL, tu vas rajouter n'importe quelle application. Donc, ça, pour faire du debug en général, c'est quand même intéressant. Et si après tu veux aller encore plus secure avec aucun outil supplémentaire et avec aucun package manager, ça veut dire que même si un pirate arrivait à rentrer dans ton container, il a aucun outil. D'abord, normalement, il ne peut pas rentrer parce qu'il n'a pas de shell, tout simplement. Mais s'il arrivait à exploiter je ne sais pas quelle faille, il n'a pas de package manager ou il n'a pas d'outils pour aller télécharger d'autres applications externes, par exemple. Donc ça, la plus minimaliste, je dirais, c'est la série des distroless, donc qui a été fait ou en tout cas hosté par Google. Mais Alpine, il y a aussi des versions, ce qu'ils appellent Scratch, qui sont encore plus, donc qui sont des bases de Alpine, mais plus petites encore. Dans certains cas, ça peut être intéressant quand vous avez une application, mettons un binaire, mais qui a besoin d'une libc. Distroless de base, il n'y a pas de libc dedans, donc votre application ne fonctionnera pas à l'intérieur. Donc les versions de Scratch ou certaines versions d'Alpine un peu spéciales, elles incluent normalement pas la glibc, mais une variante de la libc qui peut permettre à votre binaire qui a besoin d'une libc de démarrer. Donc voilà, ça c'est des images très légères et qui sont beaucoup plus sécuritaires parce que vide, à peu près vide à part votre application.
Bah, ça commence à être intéressant et c'est un peu dans cet univers-là, en tout cas, perception comme quelqu'un qui arrive de l'extérieur de ce monde-là, où j'y vois l'avantage. Puis d'un point de vue sécurité, c'est sûr que j'y vois un avantage encore plus grand, comme tu le mentionnes. Effectivement, on ne laisse pas place à l'attaquant d'avoir prendre pied dans notre environnement parce que cet environnement-là est littéralement en vide où il est dédié à notre application. J'ai encore un peu discuté sur le fait qu'on parle de binaire parce que normalement, moi, je suis plus dans un univers où j'aurais pensé que ces containers-là étaient plus dédiés à du fonctionnement d'application web, là, mais on est peut-être, je suis peut-être un peu utopiste dans mon regard sur les choses.
Ben, c'est là où généralement tu vas te retrouver avec des images un petit peu plus grosses. C'est quand tu as du langage non pas compilé mais interprété, du Python, du Node.js, ça va te prendre ton interpréteur. Souvent, ça va te prendre des librairies ou même si c'est du Java, ça va te prendre le binaire, le runtime de Java, plus tous les jars et toutes les choses qui vont avec. C'est là que tu te retrouves en général dans des images un peu plus grosses qui ont besoin d'un peu plus d'environnement autour, je dirais. Si tu fais du Go ou du C++, tu as compilé un binaire, ton image a juste besoin du binaire, le binaire démarre, ça s'arrête là. Mais quand effectivement tu es en Python, ben, ça te prend Python, puis ça te prend un certain nombre de librairies, puis Python, il n'est pas compilé en statique, donc il a besoin de certaines librairies système. Donc c'est là que des Scratch ou des Alpine deviennent utiles, tout en limitant un petit peu quand même le risque, le nombre d'outils qui peuvent être exploités. En l'occurrence, en général, on essaie d'avoir un shell, un Docker, un container qui n'aura pas de shell. Donc ça veut dire que tu ne peux pas faire un exec et rentrer dedans parce qu'il n'y a aucun autre binaire à exécuter que ton Python à la limite. Et déjà, ça, c'est beaucoup. Mais encore mieux, ton binaire à toi.
Ouais, qui va être pris dans sa prison. Là, je te disais, j'entendais parler de C, mais normalement, on essaie d'encourager les gens de faire du C. Minimalement, faire du Rust au lieu de faire du C, là, parce que c'est un langage qui est malheureusement un peu trop brutal en termes de vulnérabilité. Mais oui, effectivement, d'avoir un binaire qui est dans cette limite-là. Là, d'avoir parlé de ce que c'est, le container lui-même vit pas dans le vide, donc il vit dans un environnement dans lequel il doit être roulé. Il y a beaucoup de paramètres inhérents à ce fonctionnement-là. Tu as parlé un peu de la construction, puis peut-être pas assez de la construction sur la joue, mais en tout cas, tu reviendras si nécessaire, mais ce container-là vit quand même dans un OS qui l'appuie et qui le soutient. Il y a beaucoup de configuration qui entoure ça et jusqu'à le rendre plus sécuritaire que juste comme le laisser rouler comme ça. Là.
Exactement. Donc, par défaut, ton container, il démarre, il est tout seul, il n'a pas accès à grand-chose. Normalement, il n'a pas accès à grand-chose. Donc, il y a un premier niveau de configuration où tu vas pouvoir « binder », entre guillemets, donc des disques, par exemple. Tu vas pouvoir dire tel disque, tel volume ou tel répertoire, je veux le faire apparaître à l'intérieur de mon container. Donc ça fait partie des paramètres que tu vas pouvoir utiliser si tu as des fichiers à stocker à l'extérieur de ton container, puisque ton container, il est éphémère. Il peut, quand il va mourir, ben, c'est fini. S'il avait des choses en mémoire ou en disque, ben, c'est perdu. Donc, il y a des moyens comme ça d'aller binder. Il y a des moyens de dire à ton container de binder aussi le réseau directement de la machine, par exemple. Donc ça, c'est des moyens de donner des ressources supplémentaires à ton container une fois qu'il démarre, au moment où tu le démarres. Par contre, quand ton container il démarre, tu n'as pas non plus envie qu'il ait accès à tout ce qui se passe sur la machine en dessous. Et typiquement, des fois, dans certains cas, tu n'as pas envie que ton container ait de réseau, tout simplement. Tu as envie que ton container il démarre, mais il n'y a pas de réseau. Parce que ben, peut-être qu'il va juste modifier les fichiers sur le disque, par exemple. Imaginons. Bon, mais c'est, au niveau de Linux, cette fonctionnalité-là, ça s'appelle des capabilities. Donc, il y a une fonctionnalité, au moment où tu vas démarrer ton container, tu peux lui donner ou lui enlever des capabilities. Alors, typiquement, tu vas pouvoir lui enlever la capability de binder sur l'interface réseau du node, du host.
Mais c'est important de citer avant, c'est que normalement, puis ça, tu me l'as mentionné, ton container, il roule root en général, ce qui amène le fait de le besoin supplémentaire de capabilities de venir réduire cette capacité-là, parce que normalement, il y a tous les accès, et ça a l'effet genre négatif, c'est-à-dire de réduire tout le volet qui réduit ensuite. Là.
Exactement. Donc, ton programme qui est exécuté dans le container, tu peux te dire que c'est quasiment la même chose, presque la même chose qu'un programme qui est exécuté dans ton OS. Et effectivement, majoritairement, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, Docker D, les processus de Docker devaient être root. Alors ça, c'est quelque chose qui a changé quand même un petit peu dans les dernières années, mais ce n'est pas le cas partout. Et très souvent, par défaut, quand vous installez Docker sur votre petit Linux, eh ben, il va rouler en root. Et donc, toutes les applications qui démarrent, si vous ne changez rien, ben, techniquement, elles vont être exécutées en root. Alors, en route dans le container, oui, mais le fait d'être route, ça leur donne accès à certaines ressources au niveau de la machine. Donc, les deux moyens pour venir limiter ces choses-là, ben, le premier, donc j'en ai parlé, c'est les capabilities. Donc, on va être capable de dire, OK, ce container, il démarre, mais il n'a pas le droit d'aller jouer dans les interfaces réseau. Il n'a pas le droit d'aller tuer des process. Il n'a pas le droit de changer de owner. Ce genre de capacité qui va faire que ben, même si votre container était piraté, ben, le pirate n'arriverait théoriquement pas à aller jouer à l'extérieur du container. Et le deuxième paramètre, c'est tout simplement de dire à votre container quand il démarre, je veux que tu démarres avec tel user et tel groupe qui n'est pas root. Et déjà en faisant ça, ben, simplement, vous venez déjà d'enlever certains privilèges parce que du point de vue du système, vous n'êtes plus root, vous êtes le user et le groupe que vous avez utilisé pour démarrer votre container.
C'est beaucoup mieux de faire ce genre de choses-là, de le rouler en tant que user, au lieu de le rouler root, ou puis même dans ce cas-là, ça simplifie le fait que les capabilities ne sont pas autant nécessaires parce qu'en le roulant user, on perd déjà beaucoup de capabilities de base parce qu'on vit dans l'univers du user que dans lequel la sécurité Linux est déjà inhérente à ce moment-là, au lieu de ça, non, t'as pas d'été.
C'est toujours bon de limiter les capabilities quand on n'en a pas besoin.
Je dis pas
parce
que
on n'est jamais à l'abri d'une escalade route à l'intérieur du container.
Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais déjà de le rouler user, c'est déjà mieux parce que le user est déjà un contenant plus récent que route. Donc, les capabilities appliquées au conteneur rajoutent une couche supplémentaire. Puis, oui, je suis toujours d'accord avec les couches. Plus on en a, mieux c'est. Parce que s'il y en a une qui échoue, au moins une autre qui va corriger le problème. Mais minimalement, le roulant user, on se limite déjà à un certain nombre de problèmes. Donc, puis c'est un des problèmes en Linux, c'est que c'est root ou t'es rien. Puis quand t'es root, t'es tout. Fait que c'est un peu. J'ai un peu un malaise de l'idée de base de rouler un container en route. Là. C'était déjà là, je trouvais ça. Et l'idée est étrange, mais quand on comprend d'où vient Docker, c'est pas étrange, mais ça n'a pas été pensé pour être de la production comme on vit maintenant. Donc, ils ont corrigé avec le temps cet élément qui n'était pas de la production, puis ils l'ont adapté à l'effet de production dans lequel on vit maintenant. Au-delà des capabilities, ça, est-ce qu'il y a d'autres éléments de sécurité qu'on doit au niveau de container, qu'on doit tenir en compte, qu'on n'a peut-être pas couvert dans les, ces grands segments-là?
Je vois pas. Sûrement que j'en oublie. Mais il y a un autre élément de sécurité, c'est au moment de construire le container. Donc, on a parlé de comment ça fonctionnait. On avait des couches, on exécute des commandes, on rajoute des fichiers. À la fin, on a donc ce fameux container, cette fameuse image multicouche. Il y a des outils qui existent ensuite pour venir scanner ces containers-là. Donc ça, c'est des outils de sécurité classiques. La même chose que vous feriez sur votre repo Git ou sur votre machine de dev, ça va le faire à l'intérieur du container. Ça va aller valider les versions des choses que vous utilisez, les librairies, ça peut même jusqu'à aller scanner vos fichiers pour voir s'il n'y a pas eu du code malicieux injecté au moment que vous avez downloadé cette fameuse librairie Node.js qui permet de changer les accents aigus en accents graves, qui fait 500 lignes de code alors qu'une simple regex aurait suffi. Voilà, donc c'est des outils qui s'utilisent à différents niveaux. Donc vous pouvez utiliser dans votre CI, dans votre pipeline, au moment où vous construisez votre image. C'est des outils qui peuvent être utilisés après, beaucoup plus tard, au moment d'utiliser l'image ou dans votre cluster Kubernetes. Il y a aussi des scanners qui existent à ce niveau-là, une fois que le container est déjà exécuté.
Oui, il y en a plusieurs. D'ailleurs, dans les repos du CNCF, il y en a beaucoup qui sont derrière. Il y a beaucoup de projets qui regardent ces axes-là et sont très importants. Effectivement, je l'avais mentionné que tu allais revenir. On a oublié justement de vérifier la qualité de l'image, autant au niveau du fait que souvent on download des images de démarrage, de repo qui sont peut-être pas nécessairement, qu'on pourrait croire de confiance, mais dans un univers où même les repos de confiance sont maintenant pris d'assaut par les attaquants. On a vu PyPy, je pense, le repo de Python là, qui a été justement abusé dernièrement au moment de l'enregistrement. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours important de savoir que ces outils de vérification-là, de scan plus classiques, qui... Ah. Oui?
Mais j'ai pas mentionné, mais il y a aussi des outils. Alors, je pense que ça s'appelle Critas, mais il y a un autre nom qui vient avec ça. Il y a des outils de signature aussi hein, qui sont capables parce que qui sont capables de signer en gros chaque couche de ton container pour ensuite, au moment où tu vas l'utiliser, aller rescanner chacune des couches et valider que ce que tu as, c'est bien la même chose que ce qui a été potentiellement publié par la compagnie ou celui qui a créé le container.
Ouais, on va trouver ça en admission control aussi beaucoup, ce volet-là des choses. Là, tu devances un futur podcast, j'essaie de pas trop...
Non, parce que c'est pas lié à Kubernetes, c'est des choses, les containers, ça s'utilise en dehors de Kubernetes. Il y a d'autres solutions que Kubernetes qui sont basées sur des containers. Et d'ailleurs, il y a différents formats de containers aussi, c'est quand même bon de le mentionner. Mais donc, c'est des outils qui sont de toute manière, encore une fois, en dehors de Kubernetes et utiles à avoir. Faire de la signature et valider l'image qu'on télécharge avant de l'exécuter, les outils existent.
Oui, effectivement, mais la mission control en plein de Kubernetes est justement l'élément qu'on va utiliser pour faire ça. Mais oui, effectivement, de toute façon, j'utilise du Lexi de toute façon dans un autre contexte pour des images allégées. Là. Mais oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas couvert qu'au nouveau container là, sans vouloir s'étendre sur d'autres sujets? Là?
Pas qu'ils me reviennent à l'esprit, en tout cas.
Bon, fait qu'on a réussi à rester relativement dans le sujet. Merci énormément, très intéressant. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à savoir, justement à maîtriser de ce côté-là, parce que c'est très puissant, mais très dangereux en même temps. Fait que merci énormément.
Ça me fait plaisir.